Vous écoutez France Culture.
Merci Colette Fellouz, à dimanche prochain. Le voyage à 15h continue sur France Culture avec tout un monde. Aujourd'hui, nous partons en direction de la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, où se trouve le sanctuaire du peuple Karen. Reportage Alain de Valpeau et avec nous, Abigail Pesses. Tout un monde, Marie-Hélène Fraissé. Le magazine des cultures et des identités en mouvement. C'est l'un de ces peuples dits montagnards de l'Asie, l'un de ces peuples dits également minoritaires, bien qu'en l'occurrence ils représentent 3 à 5 millions de personnes. On les appelle les Karen. Je dis on, car cette dénomination vient de l'extérieur, comme pour pygmées ou comme pour indiens d'Amérique. Les Karen ont une langue d'origine tibéto-birmane et un destin commun qui les soude, mais aussi qui les divise, celui de n'être les bienvenus nulle part au monde, ni en Birmanie où la junte les persécute et où ils sont entrés en rébellion il y a déjà 60 ans, ni en Thaïlande où ils se sont réfugiés en masse, mais où on les accuse de détruire l'environnement, la forêt, et de cultiver l'opium, tout en les folklorisant pour le tourisme. Les Karen sont l'un des peuples martyrs du XXe siècle, victimes des pouvoirs nationalistes, victimes aussi des lâchetés des ex-colonisateurs, un de ces peuples condamnés à l'exil, mais qui tente farouchement de garder son identité, une identité forcément recomposée, notamment parce que la plupart d'entre eux sont devenus bouddhistes et 17% sont chrétiens. Aujourd'hui donc, entre Thaïlande et Birmanie, le sanctuaire du peuple Karen, avec des reportages d'Alain de Valpeau. Et en duplex d'Aix-en-Provence se trouve l'anthropologue de l'Asie du Sud-Est, Abigail Pesses. Bonjour Abigail Pesses.
Bonjour Hélène.
Vous reconnaissez ce chant ?
Oui, bien sûr.
Chant Karen ?
Oui.
Vous êtes allée plusieurs fois sur cette frontière entre la Thaïlande et la Birmanie.
Oui, c'est exact.
À la rencontre de ce peuple Karen, donc avec lequel vous avez, on va dire, travaillé. Enfin, c'est le sujet de votre thèse, avec lequel vous avez forcément loué des liens d'amitié très profonds.
Oui, c'est exact. Je suis restée près de 2 ans sur place à l'occasion de mon terrain de doctorat. Et donc, j'ai vécu dans des villages Karen et j'ai également sillonné la frontière pour m'informer un petit peu de leur situation différentielle le long de cette longue frontière qui sépare la Thaïlande et la Birmanie.
Alors une situation qui est bloquée depuis très très longtemps, puisque il y a une vingtaine d'années, je me souviens avoir entendu un reportage sur France Culture à peu près dans les mêmes termes, c'est-à-dire qu'en 20 ans, la situation n'a que très peu évolué pour ces gens. Elle s'est peut-être même aggravée, si j'ai bien compris.
Ben, disons que maintenant, ça fait, pour certains réfugiés, oui, ça fait 20 ans qu'ils vivent dans des camps le long de la frontière et qu'ils ne peuvent pas sortir de ces camps qui sont étroitement contrôlés par l'armée. Donc effectivement, pour ces réfugiés, la situation est extrêmement difficile, et notamment pour les Karen, pour les populations déplacées qui sont encore en Birmanie, l'autre côté de la frontière, et qui sont soumises à des exactions de la part de la junte militaire birmane, hein, que ce soit le travail forcé, des villages brûlés, des villages incendiés, des tortures, éventuellement des viols. Donc voilà, une situation sanitaire et humaine, effectivement, dramatique.
Pourquoi sont-ils gênants pour les Birmans ?
Pour les Birmans, parce que les Karen, depuis 60 ans, ont mis en place une rébellion armée pour la reconnaissance d'un État autonome. Alors cet État, il a été déclaré en 1954, c'est l'État de Kosulay, hein, qui est aujourd'hui démantelé suite au fractionnement de la rébellion Karen en deux factions antagonistes, donc une faction chrétienne et une faction bouddhiste.
Donc une histoire récente très difficile, mais une histoire ancienne qui était pourtant relativement heureuse.
Oui, vous avez raison de dire relativement heureuse, puisqu'ils ont quand même été toujours plus ou moins soumis à des voisins plus puissants, hein, qui les ont en quelque sorte instrumentalisés comme une force tampon, hein, entre leurs visées expansionnistes, que ce soit les visées expansionnistes des Birmans sur la Thaïlande au XVIIIe siècle, hein, et des guerres qui opposèrent ces deux pays, ou de la part des Thaïs qui ont plutôt essayé de s'en faire des alliés, justement, pour résister aux invasions siamoises. Donc, ils étaient en quelque sorte des gardes-frontières, hein, des espions, des pisteurs, des porteurs, éventuellement, qui servaient de passeurs entre ces deux mondes.
Et leur culture est plus proche de la culture birmane ou thaï ?
Bon, il faut savoir que les Karen sont 4 millions, environ 4 millions, vous disiez, la plupart hein, vivent en Birmanie. Donc, si on se cantonne au nombre, effectivement, ils sont peut-être plus proches de la culture birmane. Mais pour ceux qui vivent, il y a des Karen, donc 400 000 Karen en Thaïlande, qui vivent depuis au moins, en tout cas peut-être dès le XIIIe siècle, mais au moins depuis le XVIIIe siècle, depuis deux siècles en Thaïlande, donc ils sont en interaction très très forte avec les Thaïs et qui sont bien sûr plus imprégnés de la culture thaï que de la culture birmane.
Cette frontière n'ayant pour eux pratiquement pas de sens.
Ben disons que c'est eux, en quelque sorte, la frontière, finalement. Hein. Et non, cette frontière, maintenant, bon, elle a un sens politique, vu qu'elle les fractionne, en quelque sorte, entre deux pays hein, avec lesquels ils doivent négocier. Donc, il faut savoir que la situation en Thaïlande est quand même bien meilleure pour les Karen de Thaïlande qu'elle ne l'est pour les Karen de Birmanie. Parce que les négociations, la diplomatie thaï est plus conciliante vis-à-vis des minorités montagnardes en général, hein, même s'il y a un certain nombre de problèmes, notamment environnementaux, hein, et des revendications. Mais la Thaïlande est un pays tout de même plus démocratique, où ils ont acquis, pour ceux qui ont acquis un statut de citoyen, une possibilité, si vous voulez, d'exposer leurs revendications territoriales et identitaires.
Alors d'où ce flux de population qu'on va constater dans le reportage d'Alain de Valpo. Bonjour Alain de Valpo.
Bonjour Marie-Hélène, bonjour à tous.
On va donc sur cette frontière avec vous.
Oui, nous allons à Mesot, c'est à peu près à 7 heures de route de Bangkok, c'est au nord-ouest. C'est une ville frontalière, il y a un pont qui relie la Birmanie, qui s'appelle d'ailleurs le pont de l'amitié. Et pour illustrer ce qu'on vient de dire à la fois sur les difficultés de vivre d'un côté de la frontière et de l'autre, et aussi sur cette perméabilité entre les deux régions, je vous propose d'aller à la rencontre de Blacktown, c'est un journaliste. Il travaille pour ce qui était au début une ONG qui s'occupe des IDP. Les IDP, ce sont les personnes déplacées à l'intérieur de la Birmanie, qui vivent en vrai réfugiés de l'intérieur, fuyant le régime birman. Et donc Blacktown vient en aide à eux. Avec son équipe de journalistes, ils recueillent des témoignages en Birmanie, ils repassent la frontière clandestinement, ils publient leur magazine à plusieurs milliers d'exemplaires, en karen et en anglais, et ils retraversent la frontière pour aller le distribuer, ce magazine.
Inside News.
Inside News.
C'est bon, le rendez-vous nous attend. On y va en marchant ou en voiture ou en moto?
Non. We are going by a truck because we are here not legally, so we have to be like invisible. So it's more safe to travel in a truck.
Alors même si le lieu de rendez-vous est très proche des bureaux, nous y allons en voiture car Blacktown et tous les journalistes d'Inside News vivent de manière illégale à Mesot et il faut qu'ils soient invisibles. Donc la meilleure manière d'être invisible, c'est de se déplacer dans un véhicule avec les vitres teintées en plus.
We used to travel with motorbike you know, it's easier, but now it's more difficult. I mean, if you stop, you have to pay 5 cents, you are not legal here.
Avant, l'équipe se déplaçait plutôt en moto, c'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Mais comme les checkpoints se multiplient et qu'à chaque fois il faut payer des amendes, Blacktown se déplace maintenant en voiture. Blacktown vient d'appeler une des personnes de l'équipe qui vient de lui dire que il y a un checkpoint sur la route qu'il comptait emprunter, donc nous sommes en train de faire demi-tour.
Sometimes we, you know, understand because we are living here illegally and we drive without license, so it's a law. So, but we don't have any other option. So,
on vit illégalement, on conduit sans permis de conduire, mais nous n'avons pas d'autre option. Alors, et pour l'instant, la route est libre.
Yeah, the road is free. So. Now we are.
Ça y est, nous arrivons.
So we are here now.
Alors sur cette frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, il y a de nombreux camps, Alain de Valpo.
Il y a les gens qui, comme Blacktown, vivent de manière clandestine. Et effectivement, depuis le milieu des années 1980, il y a 9 camps officiellement. Officiellement, 140 000 réfugiés, mais beaucoup ne sont pas comptabilisés. Et nous allons donc maintenant aller à la rencontre de deux jeunes qui sont originaires du camp de Mela. Mela, c'est le camp le plus important de tous ces camps. C'est avec ces deux jeunes que nous avons rendez-vous.
Je m'appelle Marianne Lay. Je vis dans le camp de Mela. J'y suis arrivée quand j'étais enfant. J'ai suivi ma scolarité. Après mon diplôme, je suis allée à l'université où j'ai appris beaucoup d'anglais. Ensuite, je suis venue ici et je travaille à l'OIM comme interprète médicale. J'ai 20 ans. Je vis avec mon compagnon ici. On travaille ensemble. Je me plais ici.
My name is Tukapasi. I live in Melakem.
Mon nom est Tukapasi. Je vis aussi dans le camp de Mela. Je suis né dans l'État Karen. Et c'est à cause de la guerre que nous avons dû nous enfuir en Thaïlande. Avant mon arrivée au camp, j'étais très triste. Mon village me manquait. Mais j'ai dû m'adapter. Et aujourd'hui, les choses se sont améliorées.
Alors, tous les deux, vous êtes Karen. Qu'est-ce que cela veut dire, quand on a une vingtaine d'années, qu'être Karen ?
In my ideas, Karen means like a one ethnic group.
Être Karen, cela veut dire appartenir à un groupe ethnique qui vit au Myanmar. Nous avons notre propre culture. Nous portons nos vêtements Karen traditionnels. Nous avons nos instruments de musique Karen quand nous célébrons le Nouvel An Karen et d'autres jours de célébration comme celui de la KNU. Nous parlons aussi notre propre langue. Nous avons un alphabet particulier différent des autres groupes ethniques.
En fin de compte, vous n'avez jamais vécu en Birmanie ou dans l'État Karen. Que représente ce pays pour vous ?
Même si je ne le connais pas, mon père, ma mère, mes grands-parents et leurs parents viennent de cette terre. Et d'avoir appris l'histoire Karen, nous savons que nous sommes de là-bas, donc je ne peux pas l'oublier.
Moi aussi, je n'oublierai jamais. C'est ma terre maternelle, celle où je suis né. Et je sais ce qui est arrivé à notre peuple, les tortures infligées par les soldats birmans. Moi, je lutte pour la liberté.
Vous vivez en Thaïlande, un pays où, par exemple, à Bangkok, la jeunesse vit comme dans les pays développés. Est-ce que vous n'enviez pas cette jeunesse ?
Oui, nous sommes jaloux parce qu'ils profitent du développement. Ils sont libres, ils ont des papiers d'identité, ils peuvent voyager là où ils le désirent, ils peuvent se balader, faire tout ce qu'ils veulent, alors que nous restons dans le camp. On n'a pas le droit de sortir du camp. Et là, nous n'avons rien à faire. On ne peut pas sortir ni aller se promener. Nous voyons souffrir nos familles. Nous n'avons pas vraiment d'idée de la vie à l'extérieur. Nous ne connaissons que la vie des camps.
Je suis d'accord. Nous vivons dans les camps comme en cage, comme un oiseau, comme une vache dans un pré.
Notre vie n'est pas intéressante dans le camp. Nous voulons la liberté. Nous voulons l'opportunité de poursuivre nos études. Nous voulons savoir ce que c'est qu'être libre. Notre vie est très difficile à l'intérieur des camps.
Moi, je veux partir, suivre une bonne formation, une éducation supérieure. Après, je pourrais revenir et travailler pour mon pays, mon peuple, parce que dans l'État Karen, il y a tant de gens qui n'ont pas accès à l'éducation. Ils ont besoin de notre aide. Je veux suivre de bonnes études et revenir pour eux. Il y a tant de choses à affronter, beaucoup de défis à relever. Si on a peur, on ne va pas y arriver. Donc, il faut faire face pour que tout soit OK. Et je dois faire face seule. Je ne peux pas dépendre des autres. Je suis née pour lutter, pas pour avoir peur.
Le ménem patame va ne le pue ne donne ta prima que ce ti clo au bueno ta tout temps mais pas joie à ta et ça.
Marie-Hélène, la rencontre avec Marianne et tout ne se passe pas dans un camp de réfugiés, ça se passe dans un camp de transit. Pourquoi ? Parce que depuis 2005, le HCR a mis en programme un projet, un programme de resettlement, de relocalisation, essayer d'envoyer ces gens qui n'ont pas de futur vers des pays tiers comme les États-Unis, le Canada, l'Australie. Il y a à peu près 40 000 personnes qui en ont déjà bénéficié. Marianne Etou travaille dans ce camp de l'OIM, qui est géré donc par l'Organisation internationale des migrations, qui est représentée par Pierre King. Pierre King qui explique la situation de Marianne.
Elle est comme beaucoup de réfugiés dans le camp de Mela. L'année prochaine, le gouvernement thaïlandais va réviser et revoir les nouveaux arrivants ou ceux qui n'étaient pas enregistrés en 2005. Donc elle fait partie de ce groupe qui sont enregistrés par les Nations Unies, mais qui attendent d'être aussi enregistrés par le ministère de l'Intérieur. Alors entre-temps, elle travaille donc avec nous au centre de transit. Elle fait beaucoup de travail, elle s'occupe justement de la surveillance du choléra où elle pose des questions. Elle travaille aussi dans l'informatique, elle a des PDA files, des genres de petits laptops portable où elle pose des questions aux gens ici, s'ils souffrent de diarrhée, etc., de fièvre. Donc, elle est du camp de Mela, mais elle travaille au centre de transit maintenant depuis plus de 6 mois.
Pourquoi encourager ces gens à aller dans d'autres pays ? Est-ce parce qu'il n'y a pas d'autres solutions ?
Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Pour le moment, il y en a à peu près 40% qui sont intéressés par la réinstallation, mais étant donné qu'ils sont dans des camps pendant une période de plus de 10 ans, et le retour n'est pas envisageable pour eux. Donc il y en a qui optent pour cette solution qu'on pourrait appeler solution durable pour la réinstallation.
C'est-à-dire que combien de personnes ces dernières années ont quitté la Thaïlande pour aller vivre dans un autre pays ?
Depuis 2005, 40 000. Et je dirais sur ces 40 000 pour le moment, plus de 80% sont des ethnies karen. Donc beaucoup espèrent rentrer chez eux lorsque ce sera possible de rentrer. Pour le moment, c'est quand même difficile. Le HCR n'a pas encore de gens sur place dans les provinces pour éventuellement faire du monitoring. Donc pour le moment, c'est vrai que rester dans les camps pendant de longues années, c'est quand même assez difficile. Beaucoup d'enfants sont nés dans les camps et les parents pensent souvent à leurs enfants, à leur futur. Et souvent, l'éducation est importante pour eux et ils optent pour aller dans les pays tiers.
Alors, toujours à propos de la situation dans les camps, voici le témoignage de quelqu'un qui travaille pour une ONG internationale, AMI, Aide Médicale Internationale.
Donc, Raphaël Gatillon, je suis psychologue chez AMI et je supervise le service de santé mentale d'AMI dans 3 camps, Maïla, Noupo et Oumpiam. Il y a 2 ans, il y a eu une évaluation qui a été faite pour avoir des informations plus précises auprès des réfugiés, où les résultats ont donné que quasiment 50% de la population souffrait de troubles dépressifs, anxieux, des troubles somatiques, psychosomatiques et des problèmes d'insomnie, en fait, principalement. C'était ce qui a été repéré, en fait, le plus. Alors, cela s'explique par la réalité du camp, par différents traumatismes, le traumatisme de l'exil, de quitter sa culture et son identité, de devoir se reconstruire dans un camp sans savoir pour combien de temps va y rester, et paradoxalement à l'espoir de pouvoir aller ailleurs, mais qui ne se fait pas toujours. Après, énormément de patients viennent pour des problèmes d'alcool et des déviances comme des violences très importantes se produisent, et donc nous on a tout un programme mis en place autour des violences domestiques, conjugales et des violences sexuelles dans les camps, où nous, on intervient pour le support psychologique des victimes. Et aussi, on fait des visites en prison pour les auteurs.
Les jeunes de ces camps, quels espoirs ont-ils? Ce manque d'avenir ou cet avenir si lointain, qu'est-ce que cela a sur leur comportement mental?
C'est sûr que les enfants n'ont pas les mêmes histoires de vie que leurs parents. Mais tout traumatisme de l'exil se transmet de génération en génération, quoi qu'il en soit. Donc les enfants n'ont pas vécu de manière factuelle les mêmes traumatismes que leurs propres parents. Mais eux-mêmes ont l'espoir de partir aux États-Unis, parce que par exemple dans les camps, il y a des tableaux avec des photos de familles qui sont arrivées aux États-Unis et qui font comme la promotion de cette possibilité de se reconstruire et d'avoir une autre vie. Donc j'imagine que les jeunes aussi se disent « je vais pouvoir aller aux États-Unis, c'est un peu le rêve d'aller là-bas ».
Ce programme de réinstallation dans un pays tiers suscite beaucoup d'espoir et il est aussi la cause de beaucoup de déceptions.
Oui, il est la cause de beaucoup de déceptions parce qu'il sépare des familles. Et donc ça, c'est très difficile pour reconstruire des personnes qui elles-mêmes se sont parties de chez elles avec leur famille, se reconstruire dans un camp de réfugiés sans son mari ou sa femme, c'est quelque chose qui crée beaucoup de souffrance. Donc voilà, les États-Unis essaient de faire au mieux pour réunir les familles. Les séparations sont néanmoins présentes. Et voilà, donc ça reste quand même une source d'espoir, une possibilité pour se maintenir, je pense, de savoir qu'il y a des chances pour qu'on parte quelque part ailleurs et qu'on acquiert une certaine liberté. Après, il y a une peur de l'Occident. Ils sont déjà partis de leur propre pays. Ils se reconstruisent dans un camp. Il va falloir qu'en plus, ils se reconstruisent encore ailleurs. Donc, c'est à la fois porteur d'espoir et à la fois de crainte.
Toujours sur la frontière entre la Birmanie, le Myanmar et la Thaïlande, à Mae Sot, nous rencontrons la Karen Déborah. Elle est là depuis 20 ans. Se souvient-elle de son pays?
Cela fait très longtemps que je vis ici. Mon pays me manque beaucoup, surtout ma terre natale. J'espère toujours y retourner un jour. Ici, on dépend d'un autre pays. D'accord, nous sommes en sécurité. Ici, nous pouvons vivre tranquillement, même travailler, mais ce n'est pas notre terre. Dans l'État Karen, il n'est pas possible de maintenir notre culture. Parce qu'il faut toujours fuir à cause de l'ennemi. Il faut sans arrêt se déplacer d'un endroit à l'autre. Mais même en Birmanie, malgré tout, les gens se battent pour maintenir notre culture. Mais c'est très dur à cause de la politique du gouvernement. Tout est très différent. On peut dire que dans les camps, malgré les conditions, on peut maintenir vivante notre culture. Les jeunes qui vivent dans les camps de réfugiés apprennent la culture karen grâce au programme éducatif mis en place. Ils connaissent leurs origines, l'existence d'un état karen. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend dans les camps. Il y a aussi des karen qui ne vivent pas au sein de la communauté dans les camps. Par exemple, les karen qui se sont installés un peu partout dans le monde. Mais même ceux qui vivent à l'étranger savent qu'ils sont karen. Ils restent en contact avec la communauté ou alors ils apprennent tout cela de leurs parents. Si les parents veillent à leur transmettre notre culture. Mais dans les camps de réfugiés, les jeunes apprennent tout cela grâce au programme d'éducation.
Déborah, cela fait très longtemps que vous êtes partie de votre pays. Est-ce que vous avez l'espoir d'y retourner un jour ?
Je suis convaincue qu'un jour on rentrera. Je suis chrétienne. C'est comme au temps de la quête de la terre promise pour les Hébreux. Beaucoup sont morts, mais les jeunes générations y sont arrivées. Il y a ceux qui ont débuté la révolution karen. Je n'étais pas là. Aujourd'hui, c'est à moi de continuer la lutte. Et même si je ne peux pas retourner au pays de mon vivant, je crois fermement que viendra un temps pour les jeunes générations de revenir dans l'état karen.
Entre Thaïlande et Birmanie, le sanctuaire du peuple karen. On a compris donc les très grandes difficultés que traverse ce peuple depuis maintenant plus d'un demi-siècle. Je me tourne maintenant vers Abigail Pesses, qui est avec nous en duplex d'Aix-en-Provence, pour qu'on comprenne un peu mieux qui sont ces karen. Car c'est vrai, on les voit apparaître parfois, rarement d'ailleurs, dans notre presse, mais on ne sait pas bien qui ils sont. On parle de leur culture, on parle de leur langue, ils disent qu'ils sont très attachés à leur pays, mais pour l'instant, moi, ça reste un peu abstrait. Alors, Abigail Pesses, vous qui êtes anthropologue, qui avez fait du terrain longuement chez ces karen, qui sont-ils? Quelles sont, par exemple, les choses qui sont importantes dans le, pour leur lien social? À quoi s'identifient-ils le plus?
Alors, ils s'identifient à une... En fait, ce qu'ils mettent souvent en avant, hein, c'est une très grande moralité. Et c'est comme ça, souvent, qu'ils se distinguent de leurs voisins, hein, que ce soit les Thaïs ou les Birmans, qui, eux, sont certes puissants, maîtrisent toutes sortes de technologies, mais qui n'ont pas une connaissance aussi approfondie qu'ils ont eux-mêmes de ce milieu montagnard, de la forêt, et d'une idée de coexistence harmonieuse avec leur environnement naturel, mais également entre eux-mêmes, hein, une recherche d'harmonie. Donc là, évidemment, ils ont tendance à, face en tout cas à un public extérieur, à camoufler un petit peu leur division interne, puisque évidemment, comme tout le monde, ils ont des divisions politiques, économiques, sociales ou religieuses.
Donc vous voudriez dire que c'est une société peu hiérarchisée, c'est ça ?
Disons qu'elle était, c'est vrai qu'elle était peu hiérarchisée, assez égalitaire. Maintenant, avec le développement, il y a des disparités économiques de plus en plus importantes entre les karen eux-mêmes, selon qu'ils ont été plus ou moins prompts à se convertir à l'économie de marché. Donc en tout cas, c'est le cas en Thaïlande. Hein. Les politiques de développement les ont plutôt orientées vers l'agriculture commerciale. Et maintenant, il est vrai que certains n'ont pas su prendre le pas. Et effectivement, il y a une disparité au niveau des disparités socio-économiques au niveau local.
Alors cette agriculture commerciale, elle est fait accuser souvent de détruire la terre. Traditionnellement, c'est un peuple qui utilise la culture sur brûlis.
Alors, les
Karen, c'est des défricheurs de forêt.
Exactement. Alors, ça, c'est un point de litige important avec l'État thaïlandais, puisque l'agriculture sur Bali a été condamnée dans les années 60. Officiellement, ils n'ont plus le droit de pratiquer l'agriculture sur Bali. Seulement, les méthodes pratiquées par les Karen sont ce qu'on appelle des méthodes rotatives des sartages, et sont en fait considérées comme moins nocives pour l'environnement parce qu'elles permettent, elles supposent un temps de jachère suffisamment important pour que les sols puissent se régénérer. Donc aujourd'hui, ce qu'ils mettent en avant, en tout cas en Thaïlande, ce sont ils mettent en avant les sartages finalement comme une sorte de technique de développement durable, d'exploitation des sols, qui serait moins nocive en tout cas que l'agriculture commerciale qui suppose l'usage d'engrais et de pesticides qui polluent les sols et les nappes phréatiques.
Donc avant, il y a 60 ans, c'était un peuple quoi, de paysans répartis dans des petits villages qui pratiquaient donc cet essartage de manière relativement mesurée. Ce n'était pas un peuple nomade, c'était un peuple stabilisé.
On peut dire semi-nomade, ça dépend. En fait, il y a eu des périodes, pendant les périodes au XVIIIe siècle, pendant les périodes de guerre entre les royaumes thaïs et birmans, ils avaient tendance à avoir un habitat beaucoup plus mobile, c'est-à-dire qu'ils exploitaient un territoire pendant un ou deux ans et après, ils partaient exploiter de nouveaux territoires. Dans les temps de paix, ils avaient tendance à se stabiliser et donc à se sédentariser. Donc certains pratiquent l'agriculture, la riziculture, depuis très longtemps dans les plaines. D'autant plus que la politique des dirigeants siamois consistait à essayer de rassembler le maximum de sujets dans le domaine princier. Donc dans les périodes en fait de conflit, ils faisaient appel aux Karen pour combler les déficits démographiques de certaines régions après les guerres.
Alors du point de vue du cliché, il y a une partie du peuple Karen qu'on a vu beaucoup dans les livres, vous savez, ces livres de voyage avec des photos en couleur, c'est les femmes girafes, c'est-à-dire ces femmes qui ont des cous extrêmement longs parce que ces cous ont été artificiellement rallongés par l'ajout d'anneaux. Donc, qui leur étire le cou incroyablement, qui double pratiquement la longueur de leur cou. Mais quand on enlève les anneaux, le cou ne se tient plus.
Oui, alors ça, c'est une sorte de cliché touristique. Donc, il faut savoir quand même que le sort de ces femmes est en Thaïlande, en tout cas, assez dramatique, puisqu'elles sont confinées dans des sortes de zoos humains où les touristes viennent les photographier. Ces femmes, qu'on englobe dans l'ethnie Karen, ne se considèrent pas nécessairement elles-mêmes comme Karen. Elles sont identifiées comme telles et elles n'ont souvent pas le choix d'être là. Donc c'est vraiment un groupe très très minoritaire dans l'ethnie Karen. Et la plupart des Karen ne portent pas ces anneaux autour de leur cou.
Alors, en ce qui concerne les croyances des Karen, donc ils sont au départ animistes et beaucoup ont été convertis, notamment par les Anglais, je crois, du côté birman et au christianisme. Donc, et la grande majorité a aussi des pratiques bouddhistes qui, on le sait, sont quand même assez compatibles avec le chamanisme ou l'animisme.
Tout à fait.
Donc ça se répartit comme ça, ils ont quand même un fond de culture animiste. Est-ce que ça c'est fédérateur, puisqu'on cherche au fond ce qui les relie les uns aux autres profondément?
Oui, c'est fédérateur et c'est d'autant plus fédérateur que la plupart des peuples environnants partagent des conceptions animistes, notamment la croyance aux esprits du sol et de la forêt.
Avec des pratiques qui matérialisent ces croyances, des rituels?
Oui, de très nombreux rituels, notamment tous les rituels agraires, font appel aux divinités gardiennes du sol, aux génies gardiens du territoire, des sources et des montagnes environnantes. Donc ces croyances, même quand ils se sont convertis au christianisme, n'ont pas totalement disparu.
Alors, quelle est la raison, en quelques mots, pour laquelle les Birmans donc, repoussent ces Karen à l'extérieur? Est-ce qu'ils sont sur des mines que convoite le pouvoir? Est-ce qu'ils sont sur un sol particulièrement convoité? Quelle est la raison de cette éviction des Karen?
Bien, effectivement, oui. Au niveau géostratégique, cette région recèle d'importantes ressources naturelles, notamment les ressources forestières, l'exploitation du bois. Il y a également un projet de construction d'un gazoduc qui relierait donc le gazoduc Yadana, hein, qui relierait la Birmanie et la Thaïlande. Il y a également des projets de développement qui consistent à accroître les partenariats entre la Chine, le Laos, la Thaïlande et la Birmanie, hein, en construisant de nouveaux axes routiers. Donc, effectivement,
oui, puisqu'ils sont un petit peu au carrefour, hein, pas loin du triangle d'or, pour qu'on les localise bien, au nord-ouest de la Thaïlande, là où viennent se rencontrer, en gros, la Birmanie, la Chine n'est pas loin, le Laos non plus.
Oui, ce qu'on appelle maintenant le quadrangle économique, en fait, qui était autrefois le triangle d'or, en fait.
Alors, déplacé, ils le sont, Alain de Valpeau, on va repartir sur le terrain dans la région de Messotte. Cette fois, on ne va pas être dans les camps. On va être du côté des carènes qui travaillent en général de manière clandestine dans des sortes de maquiladoras, comme il y a à la frontière du Mexique et des États-Unis, avec beaucoup d'enfants qui, heureusement, bénéficient d'écoles.
Oui, alors dans les camps, effectivement, les enfants sont scolarisés. Par contre, pour ces travailleurs migrants, les carènes ont mis sur place des migrant schools, des écoles pour migrants. Et beaucoup de volontaires étrangers viennent dans ces écoles donner des cours d'anglais notamment. C'est le cas d'une Française qui travaille dans une petite association, Menglaba.
Je m'appelle Annette Herbelin. Je suis professeur de formation, enfin j'ai enseigné toute ma vie. Et au moment où j'étais en retraite, j'ai eu l'opportunité d'être volontaire comme enseignante de français à l'école située près de Messotte, l'école de MEPA, qui s'appelle BHSOH, donc Boarding High School for Orphans and Helpless Youth. Dans cette seule région de Messotte, il y a 48 migrant schools. Donc des écoles birmanes, des écoles qui ne sont pas légalement reconnues par le gouvernement thaï, mais il y a un petit progrès puisque l'année dernière, profs et élèves du BHSOH ont eu une ID card, c'est-à-dire une carte avec leur nom et prouvant qu'ils appartiennent à cette école. Et Ken Omang est le directeur d'une de ces migrant schools à MEPA, près de Messotte. Mais avant qu'une association ne l'aide à s'établir là de façon fixe en Thaïlande, pendant 10 ans, il avait créé une école itinérante dans la jungle où il transportait régulièrement les sacs de riz, quelques élèves, quelques profs suivaient. Il y a un prof de l'école qui a suivi Ken comme ça, qui est Hansen Nguyen. Dans les gamins, il y avait Tu Yang Ong qui était très jeune et qui raconte qu'il cherchait des serpents pour se nourrir dans la jungle. Bon, une époque très difficile où pendant 10 ans, ils ont été comme ça itinérants dans la jungle, poursuivis par l'armée birmane. À un moment donné, la petite école qu'ils avaient réussi à fonder a été incendiée par l'armée birmane. Voilà.
Entre Thaïlande et Birmanie, le sanctuaire du peuple Karen, Alain de Valpeau pour ses travailleurs illégaux, également des cliniques.
Oui, l'histoire la plus remarquable est la clinique Metao qui a été fondée par la docteure Cynthia Mang. Elle est d'origine Karen, elle est arrivée en Thaïlande après les événements, le soulèvement des étudiants en 1988 et elle explique l'importance et le rôle de cette clinique dans la région de Messotte.
En 2007, nous avons reçu près de 100 000 patients. Près de la moitié de ces patients viennent de Birmanie. Certains arrivent alors qu'ils sont déjà très malades. C'est en raison du coût du transport et du fait qu'ils fassent traverser la frontière avec la Thaïlande sans papier. De manière illégale, ils risquent d'être arrêtés et renvoyés.
Depuis 1989,
date de l'ouverture de la clinique, jusqu'à ce jour, le plus gros problème, c'est le paludisme. Entre 10 et 15% de nos patients souffrent de paludisme.
We see many other mais on voit aussi de plus en plus d'infections transmissibles, comme des diarrhées aiguës, des pneumonies qui se développent parmi les migrants, mais aussi dans l'intérieur de la Birmanie. L'accès à l'eau potable et les conditions de vie dans les usines ou dans les villages birmans sont déplorables. Nous constatons aussi une augmentation des malades atteints de tuberculose qui arrivent de Birmanie. Chaque année, nous identifions 300 nouveaux cas de tuberculose. Et plus de 60%, 70% sont originaires de Birmanie. Ce ne sont pas que des gens qui habitent la zone frontalière. Certains viennent aussi de très loin à l'intérieur du pays. Il y a aussi beaucoup de femmes birmanes enceintes qui n'ont pas accès à des soins obstétriques en Birmanie. Quand elles viennent s'enregistrer ici, c'est souvent des cas d'urgence. Si l'on compare avec la situation il y a 20 ans, les gens qui venaient en Thaïlande étaient en majorité des travailleurs migrants, des jeunes hommes adultes qui venaient pour un certain temps, puis rentraient ou envoyaient de l'argent chez eux. Mais petit à petit, ce sont des familles entières qui sont arrivées de Birmanie. Et elles s'installent en Thaïlande pour une longue durée. Beaucoup n'auront jamais la chance de rentrer chez eux. À partir de 1998, nous avons observé une augmentation du nombre d'enfants qui accompagnaient les familles. Ces enfants travaillent dans les ateliers comme les travailleurs birmans. Aujourd'hui, on estime que dans la région de Maesot, où nous sommes, environ 30 000 jeunes de moins de 18 ans travaillent dans des usines. Certains ne sont âgés que de 13 ans et ils travaillent plus de 12 heures par jour dans des conditions de travail très pénibles et dangereuses, sans aucune protection. Le travail des enfants et le trafic des enfants est une source croissante d'inquiétude quant à l'avenir de ces enfants. Je m'appelle Mong Mong Tin. Je vis en Thaïlande clandestinement depuis maintenant 14 ans. Au début, j'ai travaillé un temps à la clinique Mai Tau en tant que soignant dans le service de pédiatrie. Et après, je me suis mise à peindre. Je veux transmettre mon témoignage aux gens qui vivent à l'étranger, qui s'intéressent à la Birmanie. Je veux qu'à travers mes peintures, ils comprennent ce qui se passe, qu'ils puissent nous aider d'une manière ou d'une autre. Je m'en fiche que mes toiles soient bonnes ou mauvaises sur le plan technique. Mais les gens voient mes tableaux. Ils découvrent la situation en Birmanie. Et cela me fait plaisir. Peu importe que mes tableaux soient chers ou bon marché, bon ou mauvais, ce qui importe, c'est qu'en les regardant, vous en savez un peu plus. C'est mon but.
Quel est le message que vous souhaitez transmettre à travers vos œuvres ?
À quel point nous souffrons ? Dans notre pays, la vie quotidienne est difficile, chaotique, le gouvernement est mauvais, la population civile souffre. Dans notre propre pays, nous avons peur, nous fuyons, nous ne pouvons pas dormir la nuit. C'est ce que je veux raconter. Je veux aussi témoigner de notre vie en Thaïlande. Nous vivons dans un autre pays, illégalement, en clandestin. Nous avons toujours peur. La police peut nous arrêter à n'importe quel moment. Les gens meurent. Ils ne devraient pas mourir. Les gens pleurent. Ils ne devraient pas pleurer. De plus en plus, les gens vont souffrir.
de plus en plus.
Entre Thaïlande et Birmanie, le sanctuaire du peuple Karen, un sanctuaire très relatif, si l'on en croit votre reportage, Alain de Valpeau, des conditions très dures. Je me tourne vers Abigail Pesses, qui est avec nous en duplex en Provence, qui connaît bien les Karen. Vous avez longuement séjourné chez eux, justement sur cette zone frontière. Et on va peut-être revenir un petit peu sur le pourquoi de cette situation qui perdure depuis 60 ans, on a entendu parler de cette union nationale Karen. Qu'est-ce qu'elle représente? Représente-t-elle tous les Karen? Est-ce qu'il y a des scissions? Est-ce qu'il y a des leaders? Où en est donc la situation politique et l'état d'organisation des militants Karen?
Alors, non, l'union nationale Karen ne représente pas tous les Karen. C'est une organisation qui est née au moment de l'indépendance, qui s'est créée par rapport, enfin, au moment de l'indépendance de la Birmanie en 1948, pour amener pour la création d'un État fédéral où les Karen auraient une certaine autonomie. Donc,
ces Karen donc étaient quand même très bien vus des anciens colonisateurs, les Anglais qui les avaient en partie christianisés, qui leur avaient fait des promesses, promesses d'un État Karen, et promesses qui ne vont pas être tenues après l'indépendance.
Voilà. En tout cas, les colons ont favorisé, se sont appuyés en tout cas sur les Karen pour établir leur domination sur le pays. Ils les ont favorisés, ils les ont, les missionnaires les ont convertis massivement et ils ont participé, ils leur ont fourni un système d'écriture, ce qui a été également important pour traduire la Bible. Et ils leur ont donné surtout accès à l'éducation, à des postes dans l'administration, dans l'armée. Et c'est comme ça qu'ils ont participé à l'émergence d'une élite Karen christianisée.
Donc cette union nationale Karen reflète cette élite-là.
Exactement. Et donc, elle crée notamment, il y a eu en 1994, une scission à l'intérieur du mouvement de rébellion Karen en deux factions antagonistes. Donc, une faction qui était représentée par l'Union nationale Karen, le KNU, qui est d'obédience chrétienne, et une nouvelle faction qui s'est placée sous la conduite d'un moine, d'un général bouddhiste, Utthusana, qui a conclu une alliance avec la junte militaire birmane et qui attaquait véritablement tous les villages qui étaient soupçonnés d'apporter leur support à l'Union nationale Karen et également les camps de réfugiés.
C'en est où aujourd'hui cette situation?
Ah ben, cette situation ne s'est pas améliorée.
C'est-à-dire qu'il y a une profonde division ?
Il y a toujours une profonde division, d'autant plus que les bouddhistes se sentaient discriminés par les généraux chrétiens qui détenaient en quelque sorte les rênes du mouvement de rébellion depuis sa création, donc qui occupaient les principaux postes dans la hiérarchie militaire.
Ça veut dire que tous ceux qui ont suivi ce groupe-là sont quand même plus favorisés que ceux qui se regroupent autour de l'Union nationale.
L'Union nationale Karen, c'est le canal historique de la rébellion Karen. Donc c'est celui qui a reçu finalement le plus de soutien logistique indirect au niveau international, qui passe notamment par l'aide humanitaire apportée aux camps de réfugiés le long de la frontière. Le mouvement bouddhiste, l'armée de libération bouddhiste démocratique, telle qu'elle se nomme, elle est un mouvement plus récent qui, au contraire, en fait, s'est trouvé subordonné en quelque sorte à l'armée birmane pour pouvoir négocier leur emplacement sur certains territoires, pour pouvoir contrôler certains territoires le long de la frontière.
Et ça a donné quelque chose ?
Obtenir des munitions, ça leur permet... non, ils n'ont pas obtenu finalement, la junte n'a pas tenu ses promesses. Hein. Ils pensaient en fait fonder une sorte de territoire indépendant, d'attirer un certain nombre de Karen pour venir sur ce territoire où ils leur promettaient de les protéger, de leur assurer un refuge. Et en fait, les Karen qui vivent sur ce territoire sont obligés, en fait, ils ressemblent plus à une prison, en fait, où ils sont obligés de rester et de s'astreindre à une discipline bouddhiste assez stricte. Hein. On leur impose un régime végétarien. Évidemment, ils manquent de nourriture, de médicaments tous les ingrédients pour vivre dignement.
Alors, il faut resituer ça, je pense, aussi dans un contexte un petit peu plus large. On a appris la semaine dernière que le Conseil des ministres européens avait reconduit les sanctions politiques et économiques contre le gouvernement birman. Et notamment, ce n'est pas la seule raison, bien sûr, il y a les atteintes, les violations des droits de l'homme en général en Birmanie, mais notamment pour celles qui touchent les droits des minorités ethniques. Hein, donc ça, c'est tombé la semaine dernière. Mais les minorités ethniques, alors on va peut-être replacer maintenant ces Karen. On a dit dans l'émission qu'ils étaient environ 4 millions, mais il y a encore plus de millions de minorités ethniques. Donc c'est un phénomène massif quand même dans ce sud-est de la Birmanie.
Alors oui, il y a différents groupes ethniques en Birmanie. Hein, ils sont nombreux. Nombreux sont en rébellion. Donc il y a les Kachin, les Chan... les Chin, les Karen, les Kaya, enfin bon, pour n'en citer que quelques-uns, et qui sont en rébellion contre le pouvoir birman également, hein, depuis de très nombreuses, depuis l'indépendance du pays. Donc, en plus, en Thaïlande, c'est la même chose. Hein, les territoires montagnards ont servi de refuge à de nombreuses populations qui ont fui les déboires politiques, notamment en Chine et au Laos, au moment quand ces pays sont devenus communistes. Et ils se sont réfugiés en Thaïlande.
Alors, une zone particulièrement névralgique, puisqu'il y a les enjeux dont vous avez parlé. Et puis, en même temps, il y a quand même les champs d'opium des Triangles d'Or. Ils ne sont pas très, très loin.
Oui, alors, l'opium a été éradiqué en Thaïlande. Il y en a toujours, effectivement, il y a toujours des productions en Birmanie. Le problème également qui est important, c'est la production de ce qu'on appelle, enfin, des amphétamines, hein, de ce qu'on appelle le yaba, la médecine de cheval ou le médicament qui rend fou et qui inonde notamment toute la Thaïlande, hein, et qui crée de nombreux dégâts parmi la jeunesse thaï qui consomme beaucoup d'amphétamines.
On va regarder maintenant à travers votre reportage, Alain de Valpeau, justement un peu autour des Karen, en direction de ces autres minorités ethniques, dans ce carrefour de quatre pays, finalement, très, très névralgique.
Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer des Arakans ou Arakanais. Donc là, on est toujours à Mesotte. C'est le 31 décembre. Et à cette occasion, il y a eu les Arakanais organisent des cérémonies de commémoration. Nous sommes dans un quartier périphérique, dans une migrant school. Il y a environ 200 personnes, beaucoup de jeunes. Mais pour les Arakanais ou les Arakans, ce jour-là, ce 31 décembre, ce n'est pas un jour de fête.
Je m'appelle Kai Long-ho. Je suis membre des étudiants arakanais. Je me bats pour la liberté de mon peuple, pour retrouver notre terre natale.
Aujourd'hui, 31 décembre 2008, c'est le réveillon, c'est la fête pour une grande partie de la planète. Pour vous, ce n'est pas une fête. Pourquoi ?
Because we lost our sovereignty.
Parce que c'est ce jour-là que nous avons perdu notre souveraineté face au royaume birman. Ce jour-là, nos palais ont été brûlés, des monastères aussi. Des centaines, des milliers d'Arakanais ont été tués par les envahisseurs birmans. Des moines ont été emmenés en Birmanie en tant qu'esclaves. Donc pour les Arakanais aujourd'hui, c'est un jour triste. Même si c'est un jour de fête pour les autres personnes dans le monde, parce que nous avons perdu notre souveraineté ce jour-là. J'estime qu'il y a
environ 5 millions d'Arakanais. La majorité vivent en Birmanie. Environ 100 000 vivent en Thaïlande et beaucoup d'autres sont dispersés à travers le monde. Nous avons perdu tous les droits que nous avions par le passé. Le droit de vivre en tant que peuple, le droit de travailler, le droit à l'éducation, le droit de parler notre langue, le droit de nous exprimer. Nous avons perdu notre terre. Nous nous sommes dispersés à travers le monde en espérant avoir la chance de vivre, de parler librement, la chance et la possibilité de vivre en tant qu'être humain. C'est pour cela que nous avons quitté notre terre. La révolution arakanaise vaincra.
La révolution arakanaise vaincra, la révolution karen vaincra-t-elle? Abigail Pessès, un mot de conclusion, nous arrivons à la toute fin de cette émission. On a quand même le sentiment qu'il se passe des choses qui concernent alors 5 millions d'Arakan, on avait avant 4 millions de karen, donc on a là une situation absolument névralgique qui concerne depuis un demi-siècle des millions de gens et pratiquement la communauté internationale ne fait pas grand-chose. Y a-t-il un espoir autre que l'éradication totale de ces peuples autochtones, donc des approches du triangle d'or?
Bien sûr qu'il n'y a pas, je ne pense pas que la situation va déboucher sur une éradication totale de ces peuples. Ça me paraît totalement inenvisageable dans le contexte international actuel. Donc je pense que de toute façon le régime birman va devoir agir pour retrouver, pour restaurer une image internationale, donc c'est ce qu'on peut espérer.
Notamment à l'occasion des élections qui sont prévues en 2010.
Hein, exactement.
Qui sont un très gros enjeu, oui.
Exactement, je crois que la Thaïlande œuvre dans ce sens, hein, pour essayer de véhiculer de meilleures images, en tout cas de ce pays à l'échelle internationale, et pour pouvoir accroître les relations commerciales avec les pays limitrophes. Donc, il paraît difficilement envisageable que les Birmans puissent anéantir ces populations qui leur résistent déjà depuis plus de 60 ans. Même si celles-ci sont épuisées au niveau militaire et humanitaire, elles ne pourront pas... Ils ne peuvent pas s'adonner à un véritable massacre sans que la communauté internationale réagisse.
Merci Abigail Pessès. On aurait voulu terminer sur une note évidemment un petit peu plus franchement optimiste. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui désirent approfondir ce dossier sur notre site franceculture.com à la page Tout un monde, donc beaucoup de liens pour obtenir un certain nombre d'informations, une très copieuse bibliographie. Et puis, écoutez, puisque la tolérance bouddhiste ne semble pas avoir droit de cité en Birmanie, je voudrais juste signaler à nos auditeurs français que le Dalai Lama sera de passage à Paris le 7 juin, à Paris-Bercy, et que sur le thème éthique et société, on aura au moins en France l'occasion d'entendre un message de paix tout prochainement. Tout un monde, fin de la première partie sur des reportages d'Alain de Valpo en Thaïlande avec des traductions de FDR. Merci à France Bleu Aix-en-Provence et à son équipe technique. À la réalisation se trouvait Marie Casanova. Tout un monde chaque dimanche avec la collaboration de Claude Armand de Castio et cette fois-ci de Frédéric Pagani. Vous est proposé par Marie-Hélène Fraisset. Tout de suite, on reste en Asie avec les échos de la planète francophone et cette émission qui nous vient de la radio suisse romande.